Merci d'écouter InfoRC. Il est temps de retrouver des élèves du lycée Marcel Gimon d'Aubenas pour leur magazine.
Actu Terme.
Actu Terme.
Bienvenue dans l'émission Actu Terme, une émission des terminales en spécialité sciences économiques et sociales du lycée Marcel Gimon à Aubenas. L'objectif est de les préparer au grand oral. Chaque semaine, un élève doit présenter un sujet d'actualité dans le domaine économique, social ou politique. La présentation se fait devant la classe, sans notes, en minimum 3 minutes. Le but est double. D'une part, améliorer ses performances oratoires, sa diction, sa posture.
Actu Terme.
Guillaume Play a publié sur son média Légende le témoignage bouleversant de Lydia Adjara, une ancienne esclave sexuelle de la secte Raël. Dans cette interview, Lydia Adjara dénonce les différentes humiliations et violences qu'elle a subies au sein de cette secte. Pour commencer, il faut savoir qu'une secte est un regroupement d'individus autour de la même croyance ou doctrine, et ce sous l'emprise d'un gourou. Le mot gourou a plusieurs significations. Dans ce contexte, il s'agit d'une personne spécialisée dans son domaine et généralement considérée comme un leader manipulateur. Il est important de ne pas confondre religion et secte. Il y a de nombreuses différences que l'on peut recenser. La plus importante d'entre elles est cette notion d'emprise qu'exerce le gourou qui n'est pas présente dans la religion. Pour mon travail, je me suis basé sur deux sectes encore en activité, Raël et la Scientologie. Le mouvement raélien est un mouvement sectaire fondé par le français Claude Vaurillon, dit Raël, en 1974. Cette doctrine se base principalement sur une prétendue rencontre de Raël, selon lui, avec des extraterrestres, technologiquement avancés sur nous. Ces extraterrestres, les raéliens les appellent les Elohim. Ils seraient, selon eux, à l'origine de la création de la Terre, de la vie, mais aussi des cinq grandes religions. Les Raéliens ont également la conviction, comme en a été témoin Raël selon lui, que les Elohim ont la capacité technologique et scientifique de cloner les êtres humains et de transférer leurs âmes d'un corps à un autre, permettant ainsi l'accès à l'immortalité. Cependant, ce savoir-faire extraterrestre n'est réservé qu'aux adeptes de la secte de Raël et ceux qui l'ont correctement servi. À l'heure actuelle, on recense un peu plus de 90 000 membres de la secte raélienne dans le monde. Raël, donc Claude Vaurillon, est né le 30 septembre 1946 à Vichy. Il est le fondateur et gourou du mouvement raélien, classé secte en France depuis 1995. Raël n'a pas beaucoup de différence avec Sylvain Perdurif, qu'on connaît tous, si ce n'est que lui, des gens ont écouté ce qu'il a dit et l'ont cru. En effet, Raël prétend être le dernier prophète, frère de Jésus, Moïse ou encore Mahomet. Selon lui, les extraterrestres lui ont confié le secret sur la création de la vie et de la planète pour que lui le transmette aux êtres humains. C'est sa mission, et si c'est sa mission, c'est bien parce que ses frères prophètes, selon lui, ont échoué à cette tâche, transmettant des versions approximatives qui ont créé les religions. L'autre secte sur laquelle je me suis basé est la Scientologie. J'ai choisi la Scientologie parce qu'en avril 2024 a été inaugurée à Saint-Denis une église de Scientologie qui a fait grandement débat. Il faut savoir que cela a été possible car en France, la Scientologie n'est pas encore considérée comme une secte, mais seulement un mouvement aux dérives sectaires. La Scientologie est un ensemble de croyances et de pratiques fondées en 1952 par l'américain Ronald Hubbard. La Scientologie fait la promotion d'une science, d'une pseudo-science, intitulée la Dianétique. Une Dianétique qui repose sur la croyance selon laquelle, il y a 75 millions d'années, notre planète faisait partie d'une confédération de 76 autres planètes, toutes dirigées par le dictateur Xénu. La Confédération ayant fait face à une surpopulation, le dictateur Xénu donc, a pris la décision de congeler 13,5 milliards d'êtres vivants et de les jeter dans les volcans de notre planète. De ces corps extraterrestres brûlés dans les volcans s'en sont échappés des âmes que les scientologues appellent les tétans. Les tétans, donc, se sont rattachés aux êtres humains et ont vécu à travers eux, au travers de l'histoire. Ainsi, pour les scientologues, le jeu est une entité spirituelle et que bien que nous n'en ayons pas conscience, que nous n'ayons pas le souvenir, nous vivons à travers de multiples identités et de multiples corps depuis 75 millions d'années. La scientologie utilise donc cette croyance pour littéralement nous vendre des pratiques qui nous permettraient de développer la meilleure version de nous-mêmes, car nous sommes en quelque sorte prisonniers de notre enveloppe corporelle humaine et ne pouvons pas avoir accès immédiatement à nos capacités de tétan qui sont bien supérieures. À l'heure actuelle, il est impossible de déterminer le nombre d'adeptes de la scientologie. En revanche, on sait qu'en 1960, la scientologie, lors de son apogée, représentait une influence mondiale. Quoi que nous pensions des sectes, nous pouvons que constater que celles-ci parviennent à se financer et parviennent également à avoir des membres, et cela dans le temps. Nous pouvons donc nous demander quelles sont les stratégies mises en place par les sectes pour assurer leur pérennité et leur expansion. Pour répondre à cette question, nous allons distinguer les principales sources de revenus des sectes. Ensuite, nous analyserons les stratégies pour recruter et fidéliser leurs membres. Et pour finir, nous relèverons les différentes conséquences sociales de cette stratégie sur les membres et anciens membres. Pour commencer, les sectes tirent leurs revenus de deux manières différentes. La première d'entre elles, c'est le financement des sectes par leur activité commerciale. On peut prendre l'exemple des formations vendues par la Scientologie, des formations comme par exemple les stages de purification à 1300 euros selon des journalistes de l'Obs, qui consisteraient en gros à des séances de sauna sur plusieurs journées et ce à 10 heures par jour. On peut prendre un autre exemple, ce qui est commun pour le coup à toutes les sectes, c'est la vente des livres fondateurs ou même livres annexes qui arrivent après. Pour la Scientologie, on a donc la Dianétique en 1952. Et puis, pour les Raéliens, on peut prendre l'exemple en 1974 du livre intitulé « Le livre qui dit la vérité, le message des extraterrestres ». On peut également rajouter à toutes ces activités commerciales tout ce qu'une secte pourrait monnayer, comme les conférences ou même des CD. L'autre source de revenus, qui est également la plus importante, c'est la contribution en offrande des fidèles. Dans le cas des sectes, personne n'est réellement obligé de faire ses offrandes, cependant on estime qu'il pourrait y avoir des pressions exercées si cela n'était pas fait. On peut prendre l'exemple donc de Raël, la secte française, qui exige le versement de 10% du salaire de chacun de ses membres, et également 1% supplémentaire pour Raël en personne, donc Claude Vaurillon. Comme nous l'avons vu, la majorité des revenus d'une secte dépend de l'investissement de ses adeptes, mais aussi de leur quantité. C'est pourquoi nous allons nous demander quelles sont leurs stratégies pour procéder à ce recrutement. L'endoctrinement des sectes cible des individus précis et précède un processus de fidélisation. Premièrement, les sectes promouvoient leur mouvement aux individus en situation de faiblesse. On peut prendre l'exemple de la Scientologie et de leur association Non à la drogue, oui à la vie, qui leur permettent d'approcher des personnes en situation de précarité et également de toxicomanie, qui sont plus faibles et plus sujets à adhérer à des doctrines qui vont à l'encontre des valeurs de la société. On peut aussi prendre l'exemple qui est probablement le plus connu, c'est les tests de personnalité de la Scientologie qui sont offerts soit dans la rue, soit sur Internet. D'apparence anodin, car leurs questions sont toutes simples, ils sont la principale porte d'entrée à cette secte. Pour comprendre ce phénomène, j'en ai moi-même fait un. J'ai répondu à 200 questions sur leur site officiel et ils m'ont donné un diagnostic. Selon eux, je suis à moins 93% de bonheur, moins 78% de certitude et moins 90% de calme. Donc pour eux, je vais très mal. C'est pourquoi ils m'ont directement proposé d'aller à l'église de Scientologie la plus proche de chez moi. Pour le moment, je n'y suis pas allé, mais décidément très inquiet pour moi, j'ai reçu hier un message, car j'ai dû renseigner mon numéro, bien que j'ai donné une fausse identité. J'ai reçu. Bonjour, bravo pour avoir répondu aux 200 questions du test de personnalité que vous avez fait en ligne le 17 février dernier. Êtes-vous intéressé pour en connaître l'évolution? Quand puis-je vous contacter? Bien cordialement. Dominique. Alors j'ai discuté avec Dominique pour vérifier que ce soit pas un bot ou un robot. Ce n'est pas le cas. Hein. Dominique est une réelle personne qui d'ailleurs m'a donné beaucoup d'amour quand j'ai émis des doutes quant à la Scientologie. J'ai reçu un cœur orange, elle me souhaite le meilleur. Donc on voit que les individus qui du coup vont vouloir faire des tests de personnalité se posent des questions sur eux-mêmes, sont donc en situation de faiblesse. Et le test de personnalité va les conforter dans cette idée et leur proposer immédiatement un traitement qui passe par la Scientologie. Donc après avoir recruté des adeptes et des membres, les sectes entament un processus de fidélisation de ceux-ci. Les processus de fidélisation exercés par les sectes sont multiples, mais il y en a un qui est en commun à tous. C'est la croyance comme quoi, si l'on est fidèle, l'on est supérieur aux autres parce qu'on est fidèle. L'un des meilleurs exemples que j'ai trouvé, c'est le livre de Raël sorti en 1977, appelé « La géniocratie ». Dans ce livre, Raël explique que si on adhère à ses idéologies, et à son mouvement, l'on est hors norme et supérieur aux autres, les autres qui, eux, se trompent. Donc, un individu qui va entamer une information sur la secte ne va pas vouloir être catégorisé par Raël dans la catégorie de ceux qui ne savent pas et qui, en plus de ça, sont inférieurs aux autres pour cette raison. Nous l'avons vu, les personnes qui sont membres de secte vivent dans un monde qui n'est pas le même que nous. Nous ne pouvons pas le comprendre, il est complètement inattendu. Et nous allons voir maintenant que les sectes ont de lourdes conséquences mentales sur ses membres et ses anciens membres. Pour commencer, l'aliénation culturelle des membres isole les fidèles et rend difficile leur réintégration. L'aliénation culturelle, c'est le fait d'apporter peu de crédit, peu d'importance à sa propre culture au profit d'une culture qui est majoritaire. Dans le cas d'une personne endoctrinée dans une secte, la culture de la secte n'est certes pas majoritaire, mais le devient pour lui, car elle prend de plus en plus de place dans sa vie et il en a pour le moins l'impression. En effet, on remarque que la réintégration des personnes qui sont échappées de secte est extrêmement difficile, car ils ont vécu dans une société presque à part et ne sont pas du tout au courant des normes et des valeurs de notre société. C'est ce sentiment d'inconfort dans la société est renforcé par le phénomène qu'on appelle le néolangage qui naît dans les sectes. Le néolangage, c'est un langage auquel on va rajouter des mots qui n'existent pas, qui ne sont pas admis par le dictionnaire. On l'a vu dans l'introduction, pour elle, on a des mots comme Elohim qui n'ont aucun sens en soi, ou encore les tétans pour la scientologie. Ce phénomène va créer un sentiment d'inconfort en dehors de la secte et de confort au sein de la secte. On peut voir aussi que les manipulations mentales entraînent la déstabilisation et la perte de l'identité personnelle n'existant qu'à travers la secte. Le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est celui que j'ai cité au tout début de mon oral, de Lydia Adjara, qui a, durant toute cette interview, expliqué que tout ce qui lui a été infligé, elle n'a jamais explicitement refusé. Et comme elle le dit, c'est parce qu'il ne s'agissait pas d'elle, mais bien de Raël, de la cause juste, de la seule vérité. Je la citerai donc. Je lui faisais à manger. Je lui repassais son linge, je lui faisais son ménage. J'étais à sa disposition. Fallait qu'il sache où j'étais et qu'il puisse me joindre quand il le souhaite. J'étais son esclave. Elle est un parfait exemple de l'identité délaissée au profit de la secte et du gourou. On peut voir également que les différents types de violences et abus des sectes portent atteinte à la santé mentale. On peut prendre exemple des troubles de l'anxiété, principalement liés à la peur, à l'idée des conséquences liées à la séparation avec la secte, mais également la difficulté de réintégration avec le monde normal. On peut aussi avoir la dépression. Effectivement, les individus peuvent être pris d'une grande tristesse quand, en quittant la secte, ils perdent tout ce qu'ils connaissent, tout s'effondre, même toutes les vérités. Ils sont complètement perdus, c'est comme recommencer à zéro. Et une autre maladie mentale, parmi encore beaucoup d'autres, c'est les phobies. Je peux prendre l'exemple encore une fois de Lydia Adjara, qui elle a développé une forte phobie des chiens, même après avoir quitté Raël, car Raël, donc son gourou, l'avait contrainte à avoir un rapport sexuel avec un chien, elle ne s'en est jamais remise. Pour conclure, les sectes parviennent à se financer par les dons et la vente de biens. Ces revenus dépendent des membres qui, par leur stratégie sophistiquée de recrutement et de fidélisation, parviennent à exercer une emprise sur les individus, souvent en exploitant leurs faiblesses et en les isolant progressivement de la société. Et cette pression, ces manipulations psychologiques ont des conséquences sur les maladies mentales de l'individu, beaucoup de médecins le confirment, et mettent l'individu en situation de vulnérabilité une fois qu'il a quitté la secte. On pourrait penser maintenant, c'est un discours qu'on entend souvent, que notre génération ne pourrait pas adhérer aux sectes car nous sommes trop informés. La vérité est plus compliquée car, tout simplement, la scientologie a raté le tournant des réseaux sociaux, par exemple. Pareil pour Raël. En revanche, pour des sectes plus naissantes, on peut se demander si les réseaux sociaux ne seraient pas une fenêtre encore plus grande pour cibler, localiser et exercer une pression sur les personnes en situation de faiblesse.
ActuTerme.
Vous venez de suivre une préparation à l'épreuve orale du bac. Très prochainement, on retrouvera d'autres élèves sur l'antenne d'InfoRC.